Chapitre 5, où l'on voit que Tom a ouvert l'huître. Et à présent que nous avons arrangé cette affaire de Newcastle, Tom, dit M. Dean, cette même après-midi, comme ils étaient assis dans une chambre particulière à la banque, il y a un autre sujet dont je veux vous parler. Comme il est probable que vous allez pendant quelques semaines faire un séjour assez enfumé et désagréable à Newcastle, vous aurez besoin d'une bonne perspective pour vous donner du courage. » Tom attendit avec plus de calme qu'il ne l'avait fait naguère dans une position semblable et dans cette même chambre, tandis que son oncle prit sa tabatière et octroya avec impartialité une prise à chacune de ses narines. « Voyez-vous, Tom, dit enfin M. Dean en se renversant en arrière, le monde chemine maintenant d'un pas plus rapide que lorsque j'étais jeune. Car, monsieur, il y a 40 ans, quand j'étais un aussi grand jeune homme que vous, on devait s'attendre à rester dans les bas-fonds la meilleure partie de sa vie, avant de tenir soi-même le fouet. Les étoffes duraient longtemps et les modes ne changeaient pas si vite. J'avais un habit de gala qui m'a servi 6 ans. Tout était sur une échelle moindre, monsieur, quant à la dépense, veux-je dire. C'est la vapeur, voyez-vous, qui est cause de cette différence. Cela fait faire double tour à chaque roue, et à la roue de la fortune aussi bien qu'aux autres, comme l'a dit notre monsieur Stephen Guest au dîner anniversaire. Il touche parfaitement ces choses-là, quoiqu'il ne se soit jamais occupé des affaires. Je ne trouve pas de mal à ce changement, comme d'autres personnes. Le commerce, monsieur, ouvre les yeux d'un homme. Et puisque la population doit devenir trop serrée sur la terre, comme on peut le voir, les gens doivent employer leur intelligence à des inventions de différents genres. Je sais que j'ai fait ma partie comme simple homme d'affaires. Quelqu'un a dit que c'est une belle chose que de faire pousser 2 mesures de blé là où il n'en poussait qu'une auparavant. Mais, monsieur, c'est aussi une belle chose que de contribuer à l'échange des denrées nécessaires et de faire arriver les grains de blé aux bouches affamées. C'est là notre genre de commerce, et je considère qu'y être attaché est la position la plus honorable qu'un homme puisse ambitionner. » Tom vit que l'affaire dont son oncle avait à lui parler n'était pas urgente. M. Dean était trop habile et pratique pour permettre que ses souvenirs et son tabac vinssent à la traverse des affaires. À la vérité, pendant les 2 derniers mois, plusieurs insinuations avaient été faites à Tom qui pouvaient lui laisser supposer qu'il allait entendre quelques propositions pour son propre avantage. Dès le commencement de ce long discours, il avait étendu les jambes, mis les mains dans les poches et s'était préparé à écouter quelque introduction diffuse, tendant à montrer que M. Dean avait réussi par son propre mérite, et qu'en général, si les jeunes gens ne réussissaient pas, c'est parce qu'ils ne le méritaient pas. Il fut donc assez surpris lorsque son oncle lui fit cette question directe. « Voyons, il y a bien 7 ans à présent que vous vous êtes adressé à moi pour avoir une place, » dit Tom. « Oui, monsieur, j'ai 23 ans à présent. » « Ah, il vaut tout autant ne pas le dire pourtant, car vous pourriez passer pour bien plus âgé. Je me rappelle très bien votre première visite. Je me rappelle que je discernais aussitôt qu'il y avait quelque étoffe en vous, et c'est ce qui me fit vous encourager. Je suis heureux de dire que j'avais raison. Je ne suis pas souvent trompé. J'éprouvais naturellement un peu d'embarras à pousser en avant mon neveu, mais je me plais à reconnaître que vous m'avez fait honneur, monsieur. Et si j'avais eu un fils à moi, je n'aurais pas été fâché qu'il vous ressemblât. » M. Dean frappa sa tabatière et l'ouvrit de nouveau en répétant d'une manière sentie « Non, je n'aurais pas été fâché qu'il vous ressemblât. » « Je suis bien heureux de vous avoir satisfait, monsieur. J'ai fait de mon mieux, » dit Tom de sa manière fière et indépendante. « Oui, Tom, vous m'avez donné de la satisfaction. Je ne parle pas de votre conduite comme fils, quoiqu'elle ait eu de l'influence sur mon opinion à votre égard. » Mais ce qui m'importe, en qualité d'associé de notre maison, ce sont les qualités que vous avez montrées comme homme d'affaires. Notre commerce est beau, magnifique, monsieur, et il n'y a pas de raison pour l'empêcher de s'étendre. Le capital augmente, et les exportations aussi. Mais il faut encore autre chose pour faire prospérer tout établissement, grand ou petit. Ce sont des hommes pour le diriger, des hommes à habitudes régulières, non de ces individus superficiels, mais des gens sur lesquels on puisse compter. Voilà ce que M. Guest et moi voyons très clairement. Il y a 3 ans que nous avons pris Gell dans les affaires, et nous lui avons donné une part dans le moulin à huile. Et pourquoi? C'est que Gell est un homme dont les services méritaient une récompense. Il en sera toujours ainsi, monsieur. Il en est ainsi avec moi. Et quoique Jell ait environ 10 ans de plus que vous, il y a d'autres points en votre faveur. » Tom commençait un peu à être agité, à mesure que M. Dean parlait, car il avait dans l'esprit quelque chose qu'il voulait dire et qui ne serait peut-être pas agréable à son oncle, simplement parce que c'était une idée nouvelle plutôt qu'une acceptation de la proposition que Tom prévoyait. « Il va sans dire, continua M. Dean, quand il eut pris sa nouvelle prise, que votre titre de neveu pèse en votre faveur. Mais je ne nie pas que si vous n'aviez aucune parenté avec moi, votre manière d'agir dans l'affaire de la banque Pellet aurait engagé M. Guest et moi à vous offrir quelques témoignages de reconnaissance pour le service que vous nous avez rendu. Et, encouragés par votre conduite générale et votre aptitude aux affaires, nous nous sommes déterminés à vous donner un intérêt dans la maison, intérêt que nous serons charmés d'augmenter avec le temps. Nous pensons que cela vaut mieux à tous égards que d'élever vos émoluments. Cela vous donnera plus d'importance et vous préparera mieux à ce que je puisse peu à peu me décharger sur vous de quelques responsabilités. Je puis encore faire, Dieu merci, une bonne quantité d'ouvrages, mais je deviens vieux, je ne puis le nier. Je dis à M. Guest que j'entamerai ce sujet avec vous, et quand vous reviendrez de cette affaire dans le Nord, nous entrerons dans les détails. C'est un grand pas pour un jeune homme de 23 ans, mais je garantis que vous le méritez. J'ai beaucoup de reconnaissance pour M. Guest et pour vous, monsieur. Naturellement, c'est à vous que je dois le plus, à vous qui le premier m'avez reçu dans cette maison et avez dès lors pris autant de peine avec moi. » Tom parlait avec un léger tremblement et s'arrêta après ces paroles. « Oui, oui, dit M. Dean, je n'épargne pas ma peine, quand je vois qu'elle peut servir à quelque chose. Je me suis un peu occupé de Jell, autrement il ne serait pas ce qu'il est. Mais il y a une chose dont je dois vous faire part, monsieur. Je ne vous en ai point encore parlé. Vous vous rappelez peut-être que lors de la vente des propriétés de mon père, votre maison de commerce eut quelque idée d'acheter le moulin. Je sais que vous trouviez que ce serait un très bon placement, surtout si l'on y employait la vapeur. C'est vrai, mais Wakeham renchérit sur moi, il s'était mis cela dans la tête. Il aime toujours à l'emporter sur les autres. Peut-être est-ce inutile que j'en parle à présent, continua Tom, mais je désire que vous sachiez ce que j'ai dans l'esprit au sujet du moulin. Je sens très vivement à cet égard. Ce fut le désir de mon père que j'essayasse d'en reprendre possession quand je le pourrais. Il était dans sa famille depuis 5 générations. Je le lui ai promis, et de plus, je suis très attaché à cet endroit. Je n'en aimerais jamais autant un autre. Or, s'il convenait un jour à votre maison de l'acheter, j'aurais une meilleure chance de réaliser le vœu de mon père. Je n'aurais pas aimé à vous parler de cela si vous n'aviez eu la bonté de me dire que mes services avaient été de quelque valeur. Et je renoncerais à des chances d'avancement très supérieures si je pouvais retrouver le moulin, je veux dire l'avoir en main propre et travailler pour en payer peu à peu la valeur. » M. Dean avait écouté avec attention et parut méditer. « je vois, dit-il après un moment. La chose serait possible s'il y avait quelque chance à ce que Wakeham se défie de la propriété. Mais je ne le prévois pas. Il y a mis ce jeune Jetson, et je réponds qu'il avait ses raisons quand il l'a acheté. « Ce jeune Jetson n'est qu'un négligent, dit Tom. Il se met à boire, et l'on dit qu'il laisse péricliter l'affaire. Luke, notre vieux meunier, m'en a parlé. Il dit que lui-même ne restera pas là s'il ne s'y fait quelque changement. Je pensais alors que si les choses vont ainsi, Wakeham se défera plus volontiers du moulin. Luke le trouve de très mauvaise humeur de la manière dont cela marche. Bien, je m'en occuperai, Tom. Je prendrai des informations sur cette affaire et je l'examinerai avec M. Guest. Mais, voyez-vous, c'est plutôt attaquer une nouvelle branche pour vous y mettre au lieu de rester là où vous êtes, comme nous le désirions. Je pourrais m'occuper en dehors du moulin, une fois les choses bien organisées, monsieur. J'ai besoin d'avoir beaucoup à faire, et il n'y a rien que j'aime davantage. » Il y avait quelque chose d'assez triste dans les paroles de ce jeune homme de 23 ans, pour frapper même les oreilles d'un homme d'affaires comme l'oncle Dean. « Baste, baste, vous aurez une femme à soigner avant peu, si vous continuez à marcher de ce pas dans le monde. Mais, quant au moulin, il ne nous faut pas compter trop tôt sur nos poulets. Toutefois, je vous promets de m'en occuper, et à votre retour, nous en reparlerons. Je vais dîner maintenant. Venez déjeuner avec nous demain matin. pour dire adieu à votre mère et à votre sœur avant de partir. Chapitre 6. Démonstration des lois de l'attraction. Il est évident pour vous maintenant que Maggie est arrivée à une période de sa vie offrant aux yeux de toute personne judicieuse une belle chance pour l'avenir d'une jeune demoiselle. Douée d'une figure remarquable, qui a l'avantage d'être encore inconnue dans la haute société de St. Ogg's, où elle était lancée, et aidée d'une toilette qui a été l'occasion d'un colloque très intéressant entre Lucy et sa tante Paulette, Maggie entre certainement dans une vie nouvelle. À la première soirée chez Lucy, le jeune Torrey tourmenta les muscles de son visage plus que d'ordinaire, afin que cette fille aux yeux noirs pût remarquer toute son élégance augmentée d'un lorgnon. Et plusieurs jeunes dames retournèrent chez elle avec l'intention de porter des manches courtes et de la dentelle noire et de tresser leurs cheveux en larges couronnes sur le sommet de leur tête. Cette cousine de Miss Dean paraissait si bien ainsi. Au fait, la pauvre Maggie, malgré la conscience intime de son douloureux passé et le pressentiment d'un avenir pénible, était sur le point de devenir presque un objet d'envie, un sujet de discussion dans la salle de billard nouvellement établie et parmi de bonnes amies qui n'avaient aucun secret les unes pour les autres à l'égard des garnitures de robes. Les Miss Guest, qui avaient la condescendance de se réunir aux familles de St. Ogg's et qui étaient les oracles des modes, firent quelques exceptions aux éloges donnés à Maggie. Celle-ci n'accordait pas tout de suite son assentiment aux remarques ayant cours dans la société, et avouait qu'elle ne savait pas si ses jugements étaient justes ou faux, ce qui lui prêtait un air de gaucherie et gênait la facilité de la conversation. Mais il est un fait auquel on peut donner une aimable interprétation, c'est que les femmes ne sont pas plus mal disposées pour une nouvelle connaissance de leur sexe si elles offrent quelques points d'infériorité. Et Maggie était si entièrement dépourvue de ces jolis airs de coquetterie qui ont la réputation traditionnelle de pousser les hommes au désespoir, que les femmes lui accordèrent quelque pitié de ce qu'elle faisait si peu d'effet malgré sa beauté. Elle n'avait jamais joui de beaucoup d'avantages, la pauvre fille, et il fallait admettre qu'il n'y avait point en elle de prétention. Sa franchise et son inégalité de manière n'étaient que le résultat de sa position retirée et mesquine. Il était vraiment étonnant qu'il n'y eût en elle aucune teinte de vulgarité, en considérant ce qu'était le reste des relations de la famille de Lucy, allusion qui faisait toujours un peu frémir les demoiselles Guest. Il n'était pas agréable de penser à quelque alliance matrimoniale entre des gens tels que les Guest et les Paulette, mais il ne servirait à rien de contrarier Stephen quand il avait une fois mis quelque chose dans sa tête, et certainement il n'y avait pas moyen de faire la moindre objection contre Lucy elle-même. Personne ne pouvait s'empêcher de l'aimer. Elle désirait naturellement que les demoiselles Guest montrassent de la bienveillance à cette cousine qu'elle chérissait, et Stephen ferait beaucoup de bruit si elle manquait de politesse. Dans de telles conjonctures, les invitations à la maison du parc ne manquèrent pas, ainsi qu'ailleurs. Miss Dean était dans la société de St. Ogg's une personne trop répandue et trop distinguée pour qu'on négligeât aucune attention à son égard. Maggie fut ainsi pour la première fois initiée au genre de vie des belles dames et apprit ce que c'était que de se lever le matin sans aucun motif impérieux de faire une chose plutôt qu'une autre. Ce nouveau sentiment de loisir et de libre jouissance, goûté au milieu des douces brises et des parfums du jardin, au milieu d'une continuelle abondance de musique, de lentes promenades au soleil ou de délicieuses rêveries sur la rivière, tout cela pouvait difficilement ne pas avoir sur elle un effet d'enivrement après sa vie d'ennui et de privation. Aussi, dès la première semaine, Maggie commença à être moins poursuivie par ses tristes souvenirs et ses appréhensions. L'existence était certainement très douce ainsi, et il était fort agréable de s'habiller le soir avec la pensée d'être une des belles choses qu'offrait le printemps. Il y avait toujours des yeux admirateurs qui l'attendaient. Ce n'était plus une personne négligée que l'on pouvait gronder, dont on exigeait des égards, et à qui personne ne se sentait obligé d'en accorder. Il était agréable aussi, lorsque Stephen et Lucy sortaient à cheval, de s'asseoir seul devant le piano et de trouver que l'ancienne entente entre les doigts et les notes existait toujours, et se rétablissait comme une alliance sympathique que la séparation n'a pu dissoudre, de chercher les airs qu'elle avait entendus la veille et de les répéter jusqu'à ce qu'elle réussît à les jouer de manière à en faire un langage plus pénétrant et plus passionné pour elle. Le simple accord des octaves était délicieux aux oreilles de Maggie, et elle prenait souvent un cahier d'études plutôt qu'un morceau, afin de pouvoir jouir plus vivement de la sensation primitive donnée par les accords. Son appréciation de la musique n'était point d'un genre qui indiquât un grand talent naturel, mais plutôt une forme de cette sensibilité passionnée qui était le fond de sa nature. Cette vivacité d'impression faisait que ses défauts et ses qualités se fondaient ensemble, et transformaient quelquefois ses affections en une exigence impatiente, mais aussi elle empêchait sa vanité de prendre la forme de la simple coquetterie et des stratagèmes féminins. Elle lui donnait la poésie de l'ambition. Mais vous connaissez depuis longtemps Maggie, et vous désirez qu'on vous dise non son caractère, mais son histoire, qui peut difficilement se prévoir, même d'après la connaissance la plus complète de son caractère. Car le drame de nos vies ne se compose pas uniquement de ce qui se passe au-dedans de nous. Le caractère, dit Novalis, dans un de ses aphorismes sujets à discussion, le caractère est la destinée, mais non toute notre destinée. Hamlet, prince de Danemark, était contemplatif et irrésolu, et il en est cependant résulté une grande tragédie. Mais si son père était parvenu à un grand âge et que son oncle fut mort de bonne heure, nous pouvons supposer qu'Hamlet aurait épousé Ophélia, et aurait cheminé dans la vie avec la réputation d'un homme à esprit sain, malgré ses nombreux soliloques et quelques capricieux sarcasmes contre la blonde fille de Polonius, pour ne rien dire de sa rude grossièreté envers son beau-père. La destinée de Maggie nous est donc cachée pour le présent, et nous devons attendre qu'elle se révèle, comme le cours d'une rivière qui n'est pas tracée sur les cartes. Nous savons seulement que l'eau est abondante et le courant rapide, et que pour toutes les rivières, le réservoir final est le même. Sous le charme de ses nouveaux plaisirs, Maggie elle-même cessait de penser à son sort futur, malgré toute son inquiète imagination, et sa préoccupation à l'égard de sa première entrevue avec Philippe perdait un peu de sa prépondérance. Et peut-être, sans qu'elle s'en rendît compte, n'était-elle pas fâchée que l'entrevue eût été différée. Car Philippe n'était pas venu le jour où on l'attendait, et M. Stephen Guest rapporta qu'il était allé sur les côtes, probablement, pensait-il, pour faire quelques esquisses. Mais son retour était incertain. Cela ressemblait bien à Philippe de s'en aller ainsi sans rien dire à personne. Ce ne fut que 12 jours plus tard qu'il revint, et qu'il trouva chez lui les 2 billets de Lucy. Il était parti avant de savoir l'arrivée de Maggie. Il faudrait peut-être revenir à l'âge de 19 ans, pour comprendre la foule de sentiments qui assiégèrent Maggie pendant ces 12 jours, et l'importance qu'ils prirent à ses yeux par leur nouveauté et les différentes fluctuations de son esprit. Les premiers jours d'une connaissance récente ont presque toujours sur nous cette influence. Ils occupent une plus grande place dans nos souvenirs que les périodes suivantes, qui sont moins remplies de découvertes et d'impressions nouvelles. Il ne se passa pas beaucoup d'heures pendant ces 10 jours, où M. Stephen Guest ne fut assis à côté de Lucy ou debout près d'elle au piano ou l'accompagnant dans quelques promenades hors du jardin. Ses attentions devenaient clairement plus assidues, et c'était à quoi chacun s'attendait. Lucy était très heureuse, d'autant plus heureuse que la conversation de Stephen paraissait beaucoup plus intéressante et amusante depuis que Maggie était là. De gaies discussions, quelquefois de sérieuses, dans lesquels Stephen et Maggie se révélaient à eux-mêmes à la grande admiration de l'aimable et facile Lucy. Et plus d'une fois, il lui arriva de penser au charmant quatuor dans lequel se passerait leur vie quand Maggie épouserait Philippe. C'est une chose inexplicable qu'une jeune fille puisse jouir davantage de la société de l'homme qu'elle aime par la présence d'une troisième personne et ne pas sentir le plus léger accès de jalousie de ce que la conversation s'adresse surtout à cette troisième personne. Cela n'est point étonnant quand la jeune fille a le cœur aussi calme que l'avait Lucy, lorsqu'elle est entièrement persuadée de connaître les véritables affections de ses compagnons, et peu disposée aux pensées qui pourraient ébranler une telle croyance, tant qu'elle n'a pas des preuves évidentes pour la détruire. De plus, c'est à côté de Lucy que s'asseyait Stephen. C'est à elle qu'il offrait le bras, à elle qu'il en appelait, comme étant sûr qu'elle l'approuvait, et chaque jour voyait la même tendre politesse pour elle, le même empressement à connaître ses désirs et le même soin à les satisfaire. Tout était-il comme auparavant? Il semblait à Lucy que c'était mieux encore, et il n'y a pas lieu de s'étonner que la vraie signification de ce changement lui échappât. C'était un acte délicat de la conscience de Stephen, dont lui-même ne se rendait pas compte. Ses attentions personnelles pour Maggie étaient comparativement légères, et même s'il s'était établi entre eux un éloignement apparent qui empêchait le retour de ce léger semblant de galanterie à laquelle il avait été entraîné dans leur première promenade en bateau. Si Stephen entrait lorsque Lucy était hors de la chambre, si Lucy les laissait ensemble, ils ne se parlaient jamais. Stephen semblait examiner des livres ou de la musique, et Maggie avait la tête assidûment penchée sur son ouvrage. Chacun des deux se sentait entièrement sous le poids de la présence de l'autre. Cependant, chacun d'eux espérait et désirait que la chose se renouvelât le jour suivant. Ni l'un ni l'autre n'avait encore réfléchi à ce sujet et ne s'était silencieusement demandé où tout cela mène-t-il. Maggie sentait que la vie lui révélait quelque chose de tout à fait nouveau, et elle était assez absorbée dans cette expérience positive et immédiate pour qu'il ne lui restât aucune énergie pour s'en rendre compte et pour y réfléchir. Stephen s'abstenait volontairement de s'interroger et ne voulait point admettre en lui-même qu'il subît une influence ayant un effet quelconque sur sa conduite. Et quand Lucy rentrait dans la chambre, ils éprouvaient beaucoup moins de contraintes. Maggie pouvait contredire Stephen et rire de lui, et il lui recommandait l'exemple de la plus charmante des héroïnes, Miss Sophia Weston, qui avait un grand respect pour l'entendement des hommes. Maggie pouvait aussi regarder Stephen, ce qu'elle évitait toujours lorsqu'ils étaient seuls, et lui-même osait la prier de lui jouer un accompagnement, puisque les doigts de Lucy étaient si occupés de ses ouvrages de charité, et la gronder de ce qu'elle pressait la mesure, ce qui était certainement le défaut de Maggie. Un jour, c'était celui du retour de Philippe, Lucy avait pris l'engagement soudain de passer la soirée chez Madame Ken, dont l'état de santé délicate menaçant, à la suite d'une bronchite, de devenir une véritable maladie, l'obligeait de renoncer à ses fonctions dans la prochaine vente et de les remettre à quelques autres dames du nombre desquelles elle désirait que fût Lucy. L'engagement avait été pris en présence de Stephen, et il avait entendu Lucy promettre de se lever de bonne heure et de faire visite à Miss Torrey, qui était venue lui présenter la requête de Madame Ken. Voilà encore un des résultats moraux de ce stupide bazar, s'écria Stephen, dès que Miss Torrey eut quitté le salon. Enlever de jeunes dames aux soins du foyer domestique pour les transplanter dans les scènes de dissipation au milieu de cache-pots et de sacs brodés. Je voudrais bien savoir quelles sont les véritables fonctions des femmes, si ce n'est d'engager leurs maris à rester dans la maison et les célibataires à sortir de chez eux. Si cela dure encore quelque temps, les liens sociaux seront détruits. Bon, cela ne durera plus bien longtemps, dit Lucy en riant, car la vente doit avoir lieu de lundi en 8. Le ciel en soit loué, dit Stephen. Ken m'a lui-même dit l'autre jour qu'il n'aimait pas ce système de faire par la vanité l'ouvrage de la charité. Mais de même que le public britannique n'est pas assez raisonnable pour souffrir des taxes personnelles, de même St. Ogg's n'a pas des moyens suffisants pour bâtir et doter des écoles sans appeler à son aide le secours de la folie. A-t-il dit cela? Dit la petite Lucy, ses 12 yeux grands ouverts d'inquiétude. Je ne l'ai jamais entendu rien dire de ce genre. Je croyais qu'il approuvait ce que nous faisions. Je suis sûr qu'il vous approuve, vous, dit Stephen, qui sourit en la regardant affectueusement. Votre conduite en sortant ce soir paraît vicieuse, je l'avoue, mais je sais qu'au fond il s'y trouve de la bonté. Oh, vous avez trop bonne opinion de moi, dit Lucy, en secouant la tête et rougissant agréablement, et le sujet en resta là. Mais il fut tacitement convenu que Stephen ne viendrait pas le soir, et en raison de cela, il fit la visite du matin plus longue et ne s'éloigna qu'après 4 heures. Peu de temps après le dîner, Maggie, assise seule dans le salon, tenait Minnie sur ses genoux, après avoir laissé son oncle achever son vin et faire son somme, et sa mère, moitié tricotant, moitié dormant, ce qu'elle faisait toujours quand il n'y avait pas compagnie, en restant dans la salle à manger jusqu'à l'heure du thé. Maggie se baissait pour caresser le petit animal soyeux et le consoler de l'absence de sa maîtresse, lorsqu'elle vit M. Stephen Guest remonter le jardin comme s'il arrivait directement de la rivière. Il était très rare de le voir si tôt après le dîner. Il se plaignait souvent de ce qu'on dînait tard à la maison du parc. Cependant, il était là en habit noir. Il était évidemment allé chez lui et revenait par la rivière. Maggie sentit ses joues rougir et son cœur battre. Il était naturel qu'elle fût agitée, car elle n'avait pas l'habitude de recevoir des visiteurs seuls. Il l'avait vue regarder à travers la fenêtre ouverte, et il la salua en s'avançant vers cette porte-fenêtre plutôt que vers l'entrée de la maison. Son cœur aussi était troublé, et certainement il avait l'air tout aussi sot que peut le paraître un jeune homme d'esprit qui a de l'empire sur soi-même, lorsqu'il entra avec un rouleau de musique à la main et dit en hésitant « Vous êtes étonné de me revoir, Miss Tanleva. Je devrais vous faire des excuses de me présenter ainsi à vous à l'improviste, mais, désirant aller en ville, j'ai pris notre rameur, puis j'ai pensé à apporter à votre cousine ces morceaux de la jeune fille d'Artois. Je les ai oubliés ce matin. Voulez-vous les lui remettre ?»« Oui, » dit Maggie, qui dans son trouble s'était levée avec Minnie dans les bras, et qui maintenant, ne sachant trop qu'en faire, se rassit. Stephen posa son chapeau, la musique roula par terre, et il s'assit sur une chaise tout près de Maggie. Il ne l'avait jamais fait auparavant, et il sentait comme elle la nouveauté de la situation. « Eh bien, petit mignon bien gâté, » dit Stephen en se penchant pour tirer les longues oreilles qui retombaient sur le bras de Maggie. Ce n'était point une remarque préparatoire, et comme l'orateur ne la fit suivre d'aucun développement, la conversation en resta là. Il semblait à Stephen qu'il agissait comme dans un rêve qui l'étonnait pendant tout le temps qu'il mit à caresser la tête de Minnie. Cependant, cela était fort agréable. S'il pouvait seulement sonder d'un long regard la profondeur étrange des yeux de Maggie, il serait satisfait et tout à fait raisonnable. Il sentait, comme une espèce de monomanie en lui, le besoin de ce regard de Maggie, et il se tourmentait constamment à inventer quelque moyen de l'obtenir sans que cela parût singulier ou dût amener quelque embarras. Quant à Maggie, elle n'avait aucune pensée distincte, si ce n'est la sensation d'un oiseau aux vastes ailes planant de près au-dessus d'elle dans l'obscurité, car elle était incapable de lever les yeux et ne voyait que les poils noirs et ondés de Minnie. Mais cela devait finir pourtant. Peut-être cela finit-il très vite tout en paraissant long, comme le fait un songe d'une minute. Stephen enfin se redressa en s'asseyant de côté sur sa chaise, la main et les bras appuyés sur le dossier, et regarda Maggie. Qu'allait-il dire ? « Nous aurons, je crois, un magnifique coucher de soleil. Ne voulez-vous pas sortir pour le voir ?»« Je ne sais pas, » dit Maggie, puis levant courageusement les yeux et regardant par la fenêtre, « si je ne joue pas aux cartes avec mon oncle. » Nouveau silence pendant lequel Minnie est encore flattée. Mais il a assez d'intelligence pour n'en pas être reconnaissant et même pour gronder un peu. « Aimez-vous donc à rester seul ?» Une expression de franchise anima le visage de Maggie, et lançant un regard à Stephen, elle lui dit « Serait-ce tout à fait poli que de dire oui ?» C'était une question assez dangereuse à faire pour un importun, dit Stephen, enchanté de ce regard et bien décidé à en obtenir un autre. « Mais vous aurez encore une demi-heure à vous quand je serai parti, » dit-il en tirant sa montre. « Je sais que M. Dean n'entre jamais au salon avant 7h30. » Nouveau silence, pendant lequel Maggie regarde avec grande attention par la fenêtre, jusqu'à ce que, par un violent effort, elle ramène ses yeux sur le dos de Minnie et dit « J'aimerais que Lucy n'eût pas été obligée de sortir. Nous perdons notre soirée musicale. Nous aurons une voix de plus demain soir. Voulez-vous dire à votre cousine que notre ami Philip Wakeham est de retour ? Je l'ai rencontré en allant à la maison. » Maggie fit un léger mouvement. Ce fut à peine une vibration la parcourant de la tête aux pieds. Mais les nouvelles images, rappelées par le nom de Philip, dissipèrent en partie le sentiment d'oppression dont elle souffrait. Elle se leva de sa chaise avec une résolution soudaine, et posant Minnie sur son coussin, alla prendre dans un angle du salon le grand panier à ouvrage de Lucy. Stephen fut désappointé et fâché. Il pensa que peut-être Maggie n'aimait pas qu'on prononçât devant elle le nom de Wakeham de cette manière soudaine. Car il se rappelait maintenant ce que Lucy lui avait raconté d'une querelle de famille. À quoi bon rester plus longtemps? Maggie s'était assise à la table d'un air froid et fier, et lui, il avait l'apparence d'un niais d'être venu. Une visite gratuite et entièrement superflue de cette espèce était un moyen sûr de rendre un homme désagréable et ridicule. Il était évident pour Maggie qu'il avait dîné à la hâte et à part afin de pouvoir ressortir et la trouver seule. Quel état d'esprit puéril pour un jeune homme accompli, âgé de 25 ans et assez instruit dans la science du droit. Mais, en revenant à l'histoire, on ne le trouvera peut-être pas si difficile à comprendre. En cet instant, la pelote de laine de Maggie roula par terre, et elle se leva rapidement pour l'atteindre. Stephen se leva aussi, et en la ramassant, il regarda Maggie d'un air tristement fâché, qui donna à ses yeux une expression tout à fait nouvelle pour elle, lorsque leurs regards se rencontrèrent comme il lui présentait la pelote. « Adieu, » dit Stephen d'un ton qui avait la même tristesse suppliante que ses yeux. Il n'osa pas lui tendre la main. Il les tenait toutes deux dans les poches de son gilet. Maggie pensa qu'elle avait peut-être été impolie. « Ne voulez-vous pas rester ? » dit-elle timidement, sans détourner la tête, car cela eût encore paru impoli. « Non, je vous remercie, » dit Stephen, regardant de nouveau dans ses yeux noirs à demi-consentant et à demi-fasciné, comme un homme altéré regarde le cours d'un ruisseau éloigné. « Le bateau m'attend, vous direz à votre cousine ?»« Oui, que j'ai apporté la musique, veux-je dire. » »« Oui, et que Philippe est de retour. » »« Oui, Maggie ne prit pas garde au nom de Philippe cette fois. » « Ne voulez-vous pas faire quelques pas dans le jardin ?» dit Stephen, d'un ton encore plus aimable. Mais l'instant d'après, il fut fâché de ce qu'elle ne refusait pas, car elle s'approcha de la porte-fenêtre ouverte, et il fut obligé de prendre son chapeau et de marcher à ses côtés. Il cherchait quelque chose qui pût être pour lui une compensation à ce départ. « Prenez mon bras, » lui dit-il en baissant la voix, comme si c'était un secret. Il y a un charme singulièrement attrayant pour la plupart des femmes dans l'offre d'un bras vigoureux, bien que la nécessité ne s'en fasse pas physiquement sentir au moment. Mais la sensation d'un soutien, la présence d'une force qui est en dehors d'elles et qui pourtant leur appartient, satisfont un continuel besoin de leur imagination. Par ce motif ou par quelque autre, Maggie prit le bras, et ils se promenèrent autour du boulingrin et sous l'ombrage languissant des faux ébéniers, dans ce même état de vague rêverie où il s'était trouvé un quart d'heure auparavant. Seulement Stephen avait obtenu ce regard si souhaité, sans apercevoir encore en lui-même aucun symptôme de retour à la raison. Et Maggie se demandait confusément, au milieu de ses pensées en déroute, comment elle se trouvait là, pourquoi elle était sortie. Ils ne disaient plus un mot. S'ils avaient parlé, ils auraient eu chacun un sentiment moins vif de la présence de l'autre. « Prenez garde à cette marche, » dit enfin Stephen. « Oh, je vais rentrer, » dit Maggie, sentant que cette marche était venue à son aide. « Bonsoir. » En un instant, elle avait retiré son bras et courait à la maison. Elle ne réfléchit pas que cette action soudaine ne ferait qu'ajouter au souvenir embarrassant de cette dernière demi-heure. Elle n'avait plus la faculté de penser. Elle ne put que se jeter sur un fauteuil et se livrer à ses larmes. « Oh, Philippe, Philippe, que je voudrais que nous fussions encore ensemble, si tranquilles, au fond rouge. » Stephen la suivit un instant des yeux, puis, entrant dans le bateau, il aborda bientôt sur le quai. Il passa la soirée au billard, fumant force cigares et perdant des parties sans fin. Mais il ne voulait pas s'arrêter. Il était déterminé à ne pas penser, à ne pas se livrer à d'autres souvenirs que ceux offerts par l'image de Maggie. Il la voyait, il la sentait à son bras. Mais enfin, il fut bien obligé de retourner chez lui, à la froide lueur des étoiles, forcé de maudire sa propre sottise, et se décidant avec amertume à ne plus se permettre d'être seul avec Maggie. Tout cela était de la folie. Il était sincèrement amoureux de Lucy, et il était engagé envers elle aussi fortement que peut l'être un homme d'honneur. Il souhaitait n'avoir jamais vu cette Miss Taleva qui le jetait dans un tel état de fièvre, qui pourrait devenir une épouse douce, étrange, inquiétante, adorable, pour quelque autre homme, mais que lui-même n'aurait jamais choisi. Éprouvait-elle seulement ce qu'il éprouvait? Il espérait que non. Il n'aurait pas dû aller là. Il serait plus maître de lui à l'avenir. Il tâcherait de se montrer peu agréable pour elle. Il se disputerait avec elle. Se disputer avec elle? Cela était-il possible avec une personne qui avait de tels yeux, des yeux qui défiaient et suppliaient, qui contredisaient et s'attachaient, qui commandaient et imploraient, des yeux pleins de délicieuses contradictions? Pouvoir obtenir l'amour d'une telle femme serait un sort digne d'envie pour un autre homme. Ce soliloque intérieur se termina par une exclamation que murmura Stephen en rejetant le bout de son dernier cigare. Et mettant les mains dans ses poches, il traversa le parterre d'un pas plus lent. Cette exclamation ne fut point une parole de bénédiction.